accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, la guerre en Ukraine toujours et cette question, quel est l'état des troupes russes? Des images montrant des chars russes faisant demi-tour, mais aussi des témoignages récoltés par notre consoeur Virginie Pironon via les réseaux sociaux laissent penser que le moral des militaires russes est au plus bas.
C'est un enregistrement mis en ligne par les services de sécurité ukrainiens. Ce document est présenté comme venant d'un jeune soldat russe blessé qui, juste avant de mourir, adresse ce message à son petit frère.
Il ne faut vraiment pas venir, ça ne vaut pas le coup. Ici, personne n'est considéré comme un être à part entière. Il y a des gens qui meurent, tout simplement. On ne ramasse même pas leur corps, n'y va pas, même si on menace de te virer. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et s'ils te menacent de poursuites pour désertion ou autre, envoie-les au diable.
Les conscrits russes, dans leur grande majorité âgés de 18 à 20 ans, mal commandés, désorientés et qui ne comprendraient pas les raisons de leur présence en Ukraine, se sentiraient dupés, trompés. Ils n'hésitent plus à le dire aux jeunes de leur âge, comme l'explique publiquement le journaliste et politicien ukrainien Dmitri Gordon.
Premièrement, ils leur racontent qu'ils n'ont pas vu un seul fasciste. Deuxièmement, ils leur disent que l'armée ukrainienne est bien plus motivée qu'eux et bien mieux ravitaillée. Troisièmement, ils racontent que les Ukrainiens n'ont pas peur de les tuer. Quatrièmement, ils leur disent que les Ukrainiens vivent bien mieux qu'eux. Ils ont vu leur maison, nos maisons. Ils ont vu comment nous vivons. Et c'est sans comparaison.
Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des soldats qui parfois n'obéissent plus à leurs supérieurs, avec des chars faisant demi-tour. Et si l'ordre de Joseph Staline en 1942, pas un pas en arrière, avec des déserteurs fusillés, n'est plus d'actualité, l'armée russe utilise désormais d'autres moyens de pression.
Les commandants de régiments, de brigades et tout le ministère de la Défense ont donné l'ordre aux banques d'établir des listes de ceux qui sont endettés, ceux qui ont des emprunts ou ceux qui ont simplement des problèmes financiers. Le ministère de la Défense comprend qu'il y a un gros problème, que des soldats peuvent refuser de se battre.
Refuser de se battre et refuser de s'engager. Pavel Louzine est expert indépendant, spécialiste des affaires de défense en Russie.
Certains soldats sont déjà morts, d'autres sont blessés, d'autres démoralisés, démotivés, ce qui fait qu'en ce moment, la Russie ne peut pas retrouver les effectifs qu'elle avait avant le 24 février, avant la guerre. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, de nombreux soldats doivent être relevés. Ils arrivent au terme de leur service militaire.
De futurs conscrits qui devraient tout essayer pour éviter d'être envoyés à la guerre, des contractuels qui refuseraient également de signer à nouveau pour 2 ans, il n'est pas du tout certain que la Russie puisse maintenir ses effectifs de 150 000 hommes qu'elle avait engagés au début de la guerre. Les images de cadavres de civils en pleine rue dans la petite ville de Boutcha près de Kiev ont choqué le monde entier et ont poussé la communauté internationale à se mobiliser pour ouvrir plusieurs enquêtes. Le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU a ainsi documenté le meurtre de 50 civils, dont certains ont fait l'objet d'une exécution sommaire. De son côté, la procureure générale d'Ukraine s'est elle aussi rendue sur place pour tenter d'établir que l'armée russe a potentiellement perpétré des crimes de guerre en Ukraine. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Cléa Broadhurst et Jade El-Khoury.
C'est sous un ciel gris, le vent fouettant les sacs noirs qui contiennent les corps des victimes, que la procureure générale d'Ukraine, Irina Venediktova, s'est rendue à Boutcha. Elle vient établir que des crimes de guerre se sont déroulés dans la petite ville non loin de Kiev.
Boucha a des séquelles de tous les crimes de guerre, tortures, abus sexuels, infrastructures et habitations civiles bombardées. Comme Borodianka, c'est une ville sans structure militaire et il n'en reste rien. On peut témoigner d'un grand nombre de crimes de guerre dans la région de Kiev et nous pouvons les qualifier de crimes contre l'humanité.
Les preuves sont récoltées au fur et à mesure par les citoyens eux-mêmes qui disposent d'outils à portée de main pour répertorier les crimes de guerre, comme nous l'explique une députée ukrainienne, Lesia Vasilenko.
Il y a une application smartphone pour dénoncer les cas de torture, d'abus, les attaques contre des cibles civiles comme les écoles ou encore les hôpitaux. Tout le monde a un smartphone maintenant. Les gens peuvent envoyer leurs photos d'une clinique bombardée par les Russes alors même que la guerre continue. Comment les Russes pourront-ils affirmer que tout est fabriqué quand une vingtaine de personnes ont des photos du même événement avec des angles différents de troupes russes en train de viser des civils.
Des enquêteurs internationaux sont également arrivés afin de procéder à des investigations approfondies sur le terrain. C'est le cas de Belkis Wille, chercheuse senior auprès de la division crise et conflits de l'organisation Human Rights Watch.
Ce qui est frappant dans certaines régions du pays, c'est l'ampleur de ces abus. Rien que dans la région de Kiev, on voit des crimes de guerre potentiels à chaque coin de rue, autour de tous les immeubles, et c'est assez notable. L'autre chose qui marque dans ce conflit, c'est qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire autant d'opportunités d'obtenir des preuves dans le cadre de mécanismes judiciaires. C'est vraiment unique.
Le gouvernement russe persiste et signe « tout est faux et fabriqué par Kiev ». Mais les preuves accablantes s'accumulent et les Ukrainiens espèrent qu'elles serviront devant une cour pénale internationale.
Il est des victimes de cette guerre dont on entend moins parler, les enfants orphelins. Alors que l'Ukraine compte en Europe le nombre le plus important d'enfants placés dans des institutions ou des familles d'accueil, un grand nombre de ces centres se trouvent justement dans les régions industrielles peuplées de l'est du pays, en proie aux bombardements. Le récit de notre correspondant à Kiev, Stéphane Sioran.
L'Ukraine compte officiellement plus de 100 000 orphelins placés en institution, bien que le nombre pourrait être encore plus important. Ils sont généralement confiés à des orphelinats, des internats, des centres pour handicapés ou bien des familles d'accueil, un système très peu régulé et dysfonctionnel. À la violence du système s'est ajoutée celle de la guerre, car la majorité de ces institutions sont situées en Ukraine de l'Est, où se déroulent les combats les plus violents. L'armée russe visant des infrastructures civiles, plusieurs centres ont été touchés par des frappes. Selon l'ONG Ukraine Child Rights Network, 70 000 enfants se sont retrouvés sous les bombes. La plupart des établissements ont fermé, environ 30 000 enfants sont rentrés dans des familles ou chez leurs tuteurs légaux, mais les conditions d'accueil sont désastreuses. Résultat, des milliers d'orphelins sont poussés sur le chemin de l'exil. Des bus entiers ont été acheminés vers Lviv et les régions de l'Ouest. Mais cela se fait dans un véritable chaos et les autorités en charge de l'enfance n'arrivent même pas à tenir les registres des noms des enfants déplacés. Dans l'Ouest du pays, les institutions déjà existantes sont désormais menacés par la surpopulation. Les conditions de vie des orphelins se dégradent, mais ils font face également à de nouveaux dangers. Dans la cohue, il y a un réel risque de perte d'enfants, ce qui s'était déjà passé en Crimée et dans le Donbass en 2014. Par ailleurs, de nombreux orphelins sont évacués à l'étranger, en Pologne et en Roumanie notamment, et ils sont à la merci de réseaux criminels, de trafic d'enfants ou de prostitution enfantine. On considère que 3000 enfants ont déjà été envoyés à l'étranger, et désormais se multiplient les initiatives plus ou moins légal visant à envoyer des enfants vers des familles d'adoption sans espoir de retour dans leur pays natal.
Depuis le début des enquêtes PISA qui testent les connaissances des élèves de 15 ans, la Finlande occupe la première place pour les pays européens à égalité avec l'Estonie, mais loin devant la France qui se classe environ au 25e rang. L'Hexagone pourrait-il s'inspirer du modèle finlandais ? Notre correspondant Frédéric Faux est parti chercher quelques éléments de réponse à Helsinki, la capitale finlandaise.
Pour Ada et Bradley, c'est presque la fin de la scolarité au lycée d'Ite Keskus. Et quand ils se retournent sur leur parcours, ils n'ont que de bons souvenirs.
It's been fun. Jusqu'à maintenant, je me suis amusée, encore un an à faire.
Je ne me suis jamais ennuyée, ça changeait tout le temps.
Ici, personne n'est nul. Les notes ne peuvent descendre en dessous de 4 sur 10. Et plutôt que d'évoquer leur moyenne, les élèves préfèrent parler de leur qualité personnelle que l'école est censée développer.
Je suis responsable et je m'assure de consacrer du temps à mes devoirs.
Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire et j'ai tendance à ne pas repousser mes limites.
La proviseure, à leur côté, approuve.
Je dirais que tous les deux font aussi preuve de compassion. Ils savent comment se comporter avec leurs camarades d'école et leurs professeurs. Je crois que c'est très important aussi.
Ces remarques typiques de l'éducation positive peuvent faire sourire. Mais les résultats sont là. La Finlande est le bon élève européen des classements PISA. Le pays nordique se distingue aussi par son tropisme égalitaire. La différence entre chaque établissement est très faible et son degré de satisfaction des élèves qui bénéficient de la gratuité de la cantine. Cette recette finlandaise pourrait-elle être adaptée à un autre pays ? Juni Kangasniemi n'a rien contre cette idée. Directeur de programme chez Education Finland, l'organisme qui vend le savoir-faire finlandais à l'étranger, il croule sous les demandes. Mais il tient aussi à rappeler quelques évidences.
Quand on me sollicite, je demande d'abord « Est-ce que vous avez 15-20 ans devant vous ?» Car c'est ce qu'il faut pour changer l'école. Souvent, les gens ont tendance à penser qu'il faut faire un grand bond en avant, alors que les changements doivent être progressifs.
Autre condition essentielle, le consensus politique.
Les systèmes éducatifs trop politisés sont vulnérables. Quand la droite arrive au pouvoir, elle veut tout changer. Et ensuite, un gouvernement de gauche arrive au pouvoir et il veut aussi tout changer. Il n'y a aucune continuité.
Mais même si les planètes sont alignées, la réforme d'une école si intimement liée à la culture et à l'histoire d'un pays est-elle possible ? Un enseignant finlandais assure entre 18 et 24 cours de 45 minutes par semaine, plus 2 heures consacrées à des réunions pédagogiques. Il passe aussi par une sélection drastique. Le taux de réussite à l'examen varie de 8 à 20%, au bout de laquelle il doit vendre ses compétences aux directeurs et proviseurs qui vont l'embaucher. Un système scolaire à la finlandaise implique aussi une vingtaine d'élèves par classe et de bons salaires. En Finlande, un enseignant gagne très vite entre 3200 et 3500 euros par mois.
La profession d'enseignant est très valorisée en Finlande. Beaucoup d'étudiants veulent devenir profs, car ici, ils ont beaucoup d'autonomie. C'est très gratifiant d'être parmi ceux qui apprennent aux autres en Finlande, car on a toujours pensé que le meilleur moyen de garantir notre avenir est de parier sur la connaissance.
Mais la révolution la plus radicale serait aussi pédagogique. Adieu les programmes à suivre à la lettre, ou les inspecteurs, supprimés ici dans les années 90. En Finlande, les enseignants ne se réfèrent qu'à un très vague curriculum national, qui pointe des objectifs généraux, voire philosophiques, mais n'impose aucun parcours. Hemi est professeur de français et d'anglais.
Comme prof de langue, je dois m'assurer que mes élèves puissent communiquer en anglais. Mais avec quelle méthode ? C'est à moi de décider. Donc, si ma classe fonctionne mieux avec des projets ou en passant par le jeu, je le fais. Chaque enseignant utilise ses points forts et pour moi, ce sont le sens de l'humour et la musique.
La Finlande, cependant, n'est pas un monde parfait. Les élèves, comme partout, sont accaparés par les écrans. Les enseignants aussi sont sous pression. Juni Kangasniemi.
Le coût de la vie a augmenté et il y a toujours plus de tâches qu'ils doivent accomplir. Leur syndicat a menacé de se mettre en grève si les salaires n'étaient pas augmentés.
La dernière fois que les enseignants finlandais avaient dû descendre dans la rue pour se faire entendre, c'était en 1994.
Et au Royaume-Uni, ce sont les crèches et les maternelles qui tirent la sonnette d'alarme. Effet secondaire du Covid-19, un rapport de l'inspecteur des écoles anglaises révèle de sérieuses lacunes chez les tout-petits Anglais trop longtemps confinés ou entourés d'adultes masqués. Les explications de Marie Billon à Londres.
Communiquer avec les autres, avec ceux de son âge, mais aussi avec les adultes, voilà ce qui a le plus manqué aux plus petits, estime Lofsted. Privés de crèche ou du début de la maternelle, certains ont un vocabulaire limité, mais en plus de ça, ils ont du mal avec la communication non-verbale. Certains bébés ont du mal à reconnaître les expressions faciales, dit le rapport. N'avoir pas pu rencontrer d'autres petits de leur âge, une plus grande diversité d'adultes, ou bien rencontrer des gens nouveaux mais portant des masques, ont fait que les plus jeunes n'ont pas appris à indiquer ou à lire un sentiment à travers les expressions du visage. Certains éducateurs essaient de pallier ce manque avec des cartes des émotions, encourageant les petits à exprimer leurs ressentis en choisissant des cartes sur lesquelles figurent des visages expressifs. Mais les lacunes ne concernent pas que la communication, elles impactent aussi l'apprentissage au sens large. Certains ont du mal à avancer à quatre pattes et ensuite à marcher. Ils manquent de confiance en eux, sont plus timides, plus anxieux, ont plus de mal à se faire des amis. Des enfants auraient même perdu certaines de leurs capacités, comme aller seul aux toilettes, se moucher, faire ses lacets ou encore mettre son manteau tout seul, dit Lofsted. L'inspecteur estime que les éducateurs ont mis en place des programmes efficaces pour rattraper les retards, mais certains parents hésitent à remettre leur enfant à la crèche à cause du Covid. Lofsted encourage donc les familles à remplacer les écrans par des sorties et des activités physiques pour que le retard soit rattrapé autant que possible quand les enfants commenceront le primaire.
Écoute ce disque. Écoute ce disque.
Vendredi, c'est l'heure. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une auteure-compositrice galloise.
Kate Lebon poursuit son chemin sur les traces d'une pop étrange et singulière avec la parution de son 6e album Pompéi. Un titre qu'il est assez tentant d'interpréter comme la métaphore d'un monde figé par la pandémie et comme paralysé devant l'urgence climatique. Kate Lebon l'a enregistré quasiment seule, à Cardiff, à la fois chez elle et loin de chez elle, puisque la Galloise vit désormais dans le désert de Mojave, en Californie. Très inspirée par les titres les plus expérimentaux de David Bowie, l'écriture et le son du disque le rendent à la fois daté et intemporel, un brouillage des repères qui sied bien à notre époque et à l'une de ses plus brillantes autrices-compositrices.
Kate Lebon sur RFI, Accent d'Europe, Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site internet ou abonnez-vous à notre podcast via vos plateformes d'écoute. On se retrouve lundi.